Vous écoutez
RMC. RMC, Captain Weiss met le brassard.
Rien ne va plus dans le basket français entre Monaco menacé de relégation par la DNCCG et l'ASVEL contrainte de revoir son budget à la baisse et donc de se séparer de ses joueurs stars. Les monuments du basket français sont en difficulté, mais tu veux rester malgré tout positif, Fred.
Oui, il faut rester positif et il faut pas s'enflammer comme on peut s'enflammer quand ça va bien. Il faut pas s'enflammer trop quand ça va mal non plus. Il faut se rappeler que l'année dernière, j'étais le premier à dire c'est magnifique, tout se passe bien. Mmh. On a une équipe de Monaco qui a de l'argent. On a l'ASVEL qui commence à faire des choses. Le Paris Basket qui travaille très bien également. On a Bourg-en-Bresse qui vient de gagner l'Eurocoupe. Tous les signaux étaient plutôt au vert. Et c'est vrai que là, on reçoit coup sur coup des annonces qui sont un petit peu compliquées quand même. D'un côté, on a Monaco effectivement qui apparemment est sauvé, mais qui va voir son budget divisé par 3, ce qui est quand même considérable. On avait quand même une équipe qui était capable d'aller au final four de l'Euroleague. L'Euroleague, c'est la meilleure compétition européenne en basket. On avait cette équipe qui était capable d'aller au final four, donc dans les meilleures équipes de l'Euroleague, qui va voir son budget divisé par 3, qui va arrêter l'Euroleague et qui va se reconcentrer sur la deuxième compétition européenne, qui est l'Eurocoupe. Donc c'est quelque part un déclassement pour cette équipe de Monaco. Ensuite, on a l'ASVEL qui, en début d'été, nous promettait monts et merveilles. Honnêtement, je me suis prêt à rêver.
Quand Tony
nous a annoncé, on va avoir plus de 50 millions d'euros de budget, on va avoir Sylvain Francisco,
qui
est considérable.
En budget en basket moyen.
Je pense que c'est entre 10. 7 et 8 millions à peu près. Je m'avance un petit peu, mais on a beaucoup d'équipes en tous les cas dans cette
fourchette-là.
Et quand Tony nous a annoncé ce budget, j'étais l'homme le plus heureux parce que je me suis dit, justement, on sait que Monaco, ça devient compliqué, on sait qu'ils ont des retards de paiement, on a besoin d'une locomotive, une énorme locomotive, 50 millions de budget, c'est du jamais vu, c'est fantastique, on se permet de voler des joueurs à des grands clubs européens. Et là, je commence à m'enflammer. Vous me connaissez, j'ai du mal à être dans la nuance. Je suis plutôt
soit blanc ou soit noir.
Ouais. Donc la nuance, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas vraiment. Et donc forcément, j'étais hyper chaud. Sauf que ce joueur, Sylvain Francisco, dont je viens de parler, qui était la recrue phare de cet ASVEL, finalement vient de signer au Panathinaikos. C'est-à-dire que, en gros, il aura signé un mois uniquement à l'ASVEL. Il a signé le 30 juin. Le 30 juillet, il avait signé ailleurs. Et donc là, je commence à me poser des questions. Je vois Bourg-en-Bresse qui a gagné l'Eurocoupe l'année dernière, donc la deuxième division des compétitions européennes, refuser l'Euroleague parce que financièrement c'est compliqué. Je vois un club comme Le Portel, alors oui, moins fameux, en tout cas moins connu par le grand public, qui se retrouve rétrogradé en prénat, donc ça veut dire un niveau vraiment pas professionnel. Je m'inquiète forcément. Je me dis que ces locomotives, ces gens qui avaient la possibilité de nous faire progresser dans le basket, qui nous permettait d'avoir un budget énorme, se retirent ou sont en difficulté. Donc on commence à se poser des questions. Pour l'instant, le seul projet vraiment serein et fiable, c'est celui du Paris Basketball. Et ça, c'est quand même une très bonne chose dans la ville de Paris.
Qui sera en Euroleague,
oui. L'ASVEL sera normalement aussi en Euroleague avec un très beau budget de 24 millions. Mais quand on te promet 50, Flora,
et quand on annonce après,
et quand après on te dit, on en a que 24.
Ça vient d'où ça
finalement,
à Lyon.
Pardon ?
À Lyon. Pourquoi machine arrière totale ?
Alors c'est apparemment les investisseurs n'avaient pas les garanties suffisantes et c'est là que ça m'inquiète. Le basket
c'est
ne le serait pas
financier,
prêt.
En gros du basket français.
Ce qui voudrait dire que le basket français ne serait pas assez bankable pour attirer ce genre de d'investisseurs et donc forcément j'ai une inquiétude quand je sais que le train de la NBA Europe va pas tarder à passer. Je m'inquiète de voir les clubs français rester à quai.
T'as peur. Est-ce que moi j'ai une question assez simple sur ces coupes d'Europe que t'as évoqué aussi rapidement, l'Euroleague pour ne pas la nommer, qui est une ligue fermée, donc il faut être invité pour être dans cette compétition, si je dis pas de bêtises, et ça coûte aussi de l'argent à ces clubs français. Est-ce que finalement l'Euroleague c'est pas une mauvaise idée pour les clubs français quelque part ?
On peut se poser la question, oui, parce que évidemment la plupart des clubs d'Euroleague sont soit affiliés à un club de foot et donc ont un budget quasiment illimité,
comme le Real Madrid.
Le Real Madrid, parce que c'est très important. Ou alors on a des équipes qui ont des mécènes, comme c'était le cas de Monaco, c'est ça le principal problème. Ces mécènes-là arrivent à un moment où ils arrêtent de payer. De toute façon, tous les ans, il y a un déficit colossal parce qu'il n'y a pas de réalité économique à l'Euroleague, malheureusement. Mmh. Et donc, j'ai peur de me dire, finalement, Bourg-en-Bresse, c'est un pas en arrière en refusant l'Euroleague, mais est-ce que c'est pas
c'est
le
pas
bon choix?
Et oui, mais alors si honnêtement, pas gérer financièrement
honnêtement, Bourg-en-Bresse est un club qui est extrêmement bien géré, et donc s'ils prennent ces décisions, c'est que ils ont étudié toutes les possibilités et qu'ils savent que la meilleure solution c'est de ne pas faire l'Euroleague. Et c'est là que d'un côté ça m'inquiète, mais en même temps je me dis il vaut mieux tenir que courir.
Oui, mais ça veut dire que le championnat n'intéresse personne, que le championnat d'Europe n'intéresse personne.
C'est ma problématique.
Et pas du tout bankable.
Le basket européen n'est pas bankable et ne vit que par des mécènes, donc m'inquiète forcément. Et le basket français n'est pas invité. Parce que figurer en Euroleague, ça devient extrêmement compliqué, parce qu'encore une fois, les clubs sont prêts à perdre des millions. Et donc, de ce principe-là, je m'inquiète un peu. Encore une fois, la sérénité et la sécurité financière qu'assurent les clubs français, c'est quand même extrêmement intéressant. Je préfère me dire, on n'est pas invité à être dans le gratin du basket européen, mais par contre, ce qu'on fait, on le fait bien et on perd pas d'argent. Et quelque part, ça me rassure aussi.
Voilà. Est-ce que la destinée pour le temporaire de ces grands clubs français n'est-il pas de rester là où il sait évoluer? C'est un peu de ce qu'on disait tout à l'heure dans le tennis. Est-ce que notre niveau n'est-il pas là tout simplement? En faisant le rapport avec les équipes cyclistes, il y a un énorme problème lorsqu'on parle de championnat européen, c'est la fiscalité. Alors on parle de bien Monaco, sûr. Donc là pour le coup c'est pas un exemple concret, mais la fiscalité dans le sport est un vrai sujet à prendre à bras le corps par nos politiques. On parle de concurrence internationale, de concurrence européenne, nous on parle de World Tour, et certaines équipes ont des charges dont, et très bien, parce qu'on a de vrais contrats de travail. Nos joueurs et nos coureurs sont des salariés. Ils ont droit au chômage quand ça s'arrête. Ils ont une couverture sociale. Mais à côté de ça, c'est injouable. C'est-à-dire que quand il faut rajouter 20% du budget ou 30% pour payer les charges, on peut pas jouer avec l'Europe. Et ça, moi, je tire un grand coup de chapeau que Tony Parker se soit un peu avancé trop vite et finalement les investisseurs ne sont pas venus à la hauteur qu'il espérait. Oui, mais il a fait la démarche. Et moi, je le mets pas au pilori, parce que moi, j'ai fait ce genre de démarche d'aller chercher des ronds, et quand tu les trouves pas et quand tu dois dire on arrête, c'est toi le méchant. Ouais,
mais le problème de Tony Parker, et je te rejoins complètement, parce que c'est qu'il a communiqué trop vite.
Oui, je sais.
Seule problématique, parce que tu vois un garçon comme ça, c'est exactement le point, c'est qu'il essaye de mettre le basket en avant, qu'il essaye de trouver des financements, il essaye avec son image.
Est-ce que Tony a gagné dans sa carrière, Fred? Il pourrait aussi se dire, ah, c'est bon, j'ai profité de mon
problème.
Et mes enfants, et mes petits-enfants, et mes arrière-petits-enfants.
Mais je suis complètement d'accord.
Et je pense qu'il peut être un des porte-étendards et un des porte-paroles pour aller voir les gens qui décident dans notre pays et les instances internationales en disant il faut qu'on se mette autour de la table.
Tu changeras la fiscalité, tu ne seras pas au même niveau sur la.
Oui, voilà, c'est pour ça. La première ligne, pour faire un parallèle avec cette histoire de l'ASVEL, nous, le parallèle, c'est les équipes commencent à discuter, de se dire. Le siège de l'UCI étant en Suisse, ayons tous un siège social et une fiscalité suisse.
Mais
et là, on pourra commencer à parler
sur un pied d'égalité.
Ce qu'on ne peut pas faire sur des clubs de basket ou des clubs de sport co qui sont basés dans des villes. Juste pour revenir à Tony Parker, où moi je rejoins plutôt ton discours. Je suis complètement d'accord avec toi. Sauf que, imagine les supporters à qui on annonce des joueurs de ce calibre, une ambition démesurée, une capacité. C'est extrêmement difficile à entendre.
Et des sponsors que tu allais chercher.
Mais bien sûr. Avec la promesse d'un sac majeur monstrueux, d'avoir des ambitions incroyables dans l'Euroleague, qui est quand même une compétition juste magnifique. C'est quand même difficile à entendre. Et donc, je comprends cette différence entre, d'un côté, moi, je pense qu'il a fait de son mieux et je peux pas le tirer à boulet rouge sur lui. Et de l'autre, vendre des promesses trop tôt et trop rapides à des supporters, c'est difficile de
l'enlever. Quand il a recherche de sponsor, faut bien qu'il vende un minimum un peu de rêve, quand même.
Oui, d'accord, mais 59 millions. C'est
oui,
beaucoup de
25,
ouais. Un autre problème qu'on a évoqué aussi un petit peu cette semaine, Fred, c'est la fuite des talents aussi en France. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de jeunes joueurs qui partent pas seulement à l'étranger, parce qu'on parlait de l'Europe, mais principalement aux États-Unis pour jouer dans des universités américaines, avec là une manne financière que le basket français, avec laquelle le basket français ne peut pas lutter, tout simplement. Est-ce que c'est pas aussi là le problème principal du basket français, de perdre ces talents-là qui pourraient permettre au championnat d'évoluer encore plus?
Alors c'est le problème du basket mondial, mais comme on disait, il y a les charges qui changent de tous les sports. Mais c'est vrai qu'on est en train de parler de joueurs qui jouent en deuxième division, qui vont se retrouver avec une possibilité de contrat d'un 1,5 million de dollars pour une saison en université. Donc même pas le niveau NBA, donc le meilleur niveau du monde. Non, l'université. Donc à partir de là, ça va devenir difficile de concurrencer. Ça peut freiner l'envie de former aussi en France. Moi, je suis plutôt très inquiet par rapport à
ça. C'est la même chose dans tous les sports.
Le ministre des Sports ou qui veut se dire, on a un sport universitaire, on a un sport scolaire, on crée des... Alors, usine à champions, ça va mal être interprété, pardon. Mais donnons les moyens à nos jeunes Français de rester en France, de faire leurs études, construisons des championnats intéressants chez les jeunes. Tant qu'on ne sera pas à faire les États-Unis, on n'y arrivera pas.
Tu sais pourquoi on ne peut pas ? Parce que les États-Unis ont trois choses que nous n'avons pas. Ils ont les infrastructures que nous n'aurons jamais. C'est-à-dire que les joueurs, quand ils vont jouer là-bas, ils ont des salles que même nos plus grands clubs européens n'ont pas. D'accord ? Des salles d'entraînement, des salles de musculation, piscines.
Et on parle juste
d'université américaine. Ils ont la faculté aussi d'avoir un double projet. C'est-à-dire que tu vas là-bas, tu reviens avec un diplôme américain, après 4 ans d'université, tous ne l'auront pas.
En France, tu fais du sport, t'es un cancre. Donc tu ne peux pas faire des études.
Exactement. Et le troisième, c'est la manne financière. Ben oui, 1,5 million pour un joueur qui joue en deuxième division en France l'année dernière, c'est compliqué.